Nathalie Loiseau renonce à briguer la tête du groupe centriste au Parlement européen. Elle met ainsi fin à une campagne chaotique pour les élections, vous le comprendrez. Dans cette édition encore, nous entendrons le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Il accuse l'Iran d'avoir attaqué deux pétroliers dans le golfe Persique hier. Une guerre de communication, vous le comprendrez. Et puis comment l'agriculture française peut-elle réduire ses émissions de gaz à effet de serre? Des chercheurs se sont penchés sur la question lors de leurs recommandations. Nous les retrouverons dans moins de 10 minutes. C'est un petit coup d'arrêt à l'ambition macronienne à Bruxelles et Strasbourg. Nathalie Loiseau renonce à briguer la présidence du groupe centriste au Parlement européen. La tête de liste de La République En Marche dit avoir pris cette décision au nom de l'unité du groupe. Mais l'autre raison de cet abandon est le manque de soutien autour d'elle. Elle a multiplié les faux pas ces dernières semaines, Audrey Tison.
Qualifier ses adversaires d'ectoplasme, ses alliés d'hommes frustrés ou aigris, ça n'est pas le meilleur moyen de s'imposer au niveau européen, où la discrétion et le sens du compromis sont les maîtres mots. La publication de ces propos de Nathalie Loiseau a été la goutte d'eau de trop. Beaucoup pensaient déjà qu'elle n'était pas faite pour le job de présidente de groupe. De moins en moins soutenue, la Française risquait de ne pas être élue. Elle préfère renoncer à briguer le poste. Pour faire bonne figure, elle indique à ses collègues qu'il y avait trop de candidats, qu'il ne fallait pas rajouter à la désunion. La stratégie affichée par les macronistes français, c'est on lâche sur le poste de numéro 1 pour mieux se placer dans les présidences de commission, d'autres postes très influents dans l'hémicycle. Pascal Canfin espère par exemple prendre la tête de la commission environnement, poste sensible également brigué par les Verts.
Ces désignations n'auront pas lieu avant le mois de juillet. Ce processus-là est en cours et il est aussi très long. Au Royaume-Uni, le Guardian rapporte que 3 candidats conservateurs seraient en train d'envisager une alliance pour contrer Boris Johnson, favori pour prendre le poste de Premier ministre en Grande-Bretagne. L'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien maire de Londres, a remporté hier le premier tour du scrutin interne au parti conservateur. Les États-Unis en sont convaincus, l'Iran est responsable des attaques menées hier contre des navires pétroliers en mer d'Oman, en plein golfe Persique. 2 tankers, un Norvégien et un Japonais, ont été pris pour cible. Il n'y a pas eu de blessés, mais les Iraniens affirment avoir secouru une quarantaine de marins. Washington, de son côté, a publié hier une vidéo montrant des hommes près de l'un des pétroliers. Les Américains affirment qu'il s'agit d'Iraniens retirant une mine ventouse qui n'avait pas explosé. Rien pourtant pour l'instant ne le prouve. Les accusations proviennent du secrétaire d'État américain Mike Pompeo.
La République islamique d'Iran est responsable de ces attaques dans le golfe d'Oman. Cette conclusion se fonde sur plusieurs critères. Les renseignements collectés, les armes utilisées, les précédentes attaques iraniennes contre d'autres navires et le fait qu'aucun groupe allié à l'Iran n'a les moyens d'atteindre un tel niveau de sophistication. Aucune sanction économique, quelle qu'elle soit, n'autorise l'Iran à attaquer des civils innocents, à perturber ainsi le marché mondial du pétrole et à faire du chantage à l'arme nucléaire. La communauté internationale condamne ces agressions menées contre la liberté de navigation qui, encore une fois, visait des civils innocents. Les États-Unis défendront leurs troupes, leurs intérêts, et ils seront aux côtés de leurs alliés pour protéger le commerce mondial et la stabilité de la région.
Alors ce matin, la nature des attaques reste encore floue. Les témoins évoquent des explosions à bord des bateaux. L'Iran dément catégoriquement être à l'origine de ces attaques. Fédérer les actions européennes pour gagner en efficacité au Sahel. Voici le vœu de la ministre française des Armées, Florence Parly. Elle rendait hier un hommage aux forces spéciales françaises à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un projet est à l'étude en ce moment pour associer les Français à certaines forces de leurs homologues européens dans la lutte contre le terrorisme au Mali notamment. Et ce projet pourrait se mettre en place dès 2020, a dit hier la ministre.
Au moment où l'Europe de la défense prend en quelque sorte son envol, il est très important que cette Europe de la défense ne se cantonne pas à des sujets essentiels tels que par exemple la capacité à développer des équipements et une industrie de défense, ce dont nous avons cruellement besoin naturellement, mais puisse aussi s'appuyer sur une capacité à intervenir de plus en plus ensemble. Nous travaillons à un projet qui consiste à fédérer aussi des forces spéciales de différents pays afin de soutenir l'effort que nos forces spéciales réalisent au Sahel, par exemple. L'excellence, la qualité de nos forces spéciales, qui fait l'admiration de la plupart de leurs homologues dans le monde, est un élément extrêmement fédérateur pour constituer cette union, si je puis dire, de forces spéciales à laquelle nous travaillons en ce moment.
La ministre française des Armées, Florence Parly, elle répondait à Nathalie Hernandez. Nous avons appris hier l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier. Elle vise Nicolas Sarkozy. Les magistrats s'intéressent à la découverte de grosses coupures, des billets de 500 euros appartenant à l'ancien président. Ils ont été retrouvés dans une enveloppe à son nom lors d'une perquisition fin 2017 chez un célèbre antiquaire parisien. Le parquet national financier encore, qui a requis hier 7 ans de prison ferme avec mandat de dépôt contre Patrick Balkany. Le maire de Levallois-Perret est jugé à Paris pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, corruption passive et prise illégale d'intérêt. 4 ans de prison avec sursis et 500 000 euros d'amende ont été requis contre sa femme et première adjointe à Levallois-Perret, Isabelle Balkany. L'agriculture contribue pour 20%, soit un cinquième des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour préserver le climat, quels efforts peuvent donc être faits? Les chercheurs ont calculé que la France, grand pays agricole, a une marge de manœuvre non négligeable. Dans une étude inédite, il détaille ainsi comment stocker davantage de carbone dans le sol. Et pour cela, il faut modifier certaines pratiques agricoles, Sophie Bécherel.
Naturellement, les sols stockent du carbone et compensent une partie des gaz à effet de serre émis par les hommes. Si on parvient à augmenter légèrement de 4 pour 1000 cette capacité de stockage chaque année, une partie des émissions sera alors compensée. Suivant les cultures, la France a une marge de progression, détaille le président de l'INRA, Philippe Mauguin.
On a des potentiels de croissance, en particulier dans le secteur des grandes cultures, les céréales, les oléagineux, où les taux de carbone sont relativement plus faibles que dans les prairies ou dans les forêts. Par exemple, quand on a fait du blé et on va faire ensuite du colza ou de l'orge, on peut avoir des sols nus ou au contraire avoir une couverture des sols. La couverture des sols permet d'enrichir le taux de carbone dans les sols.
L'INRA recommande 9 pratiques vertueuses. Parmi elles, laisser en prairie permanente des champs qui actuellement sont fauchés ou, mesure gratuite, mettre de l'herbe entre les rangs de vignes ou laisser les vaches plus longtemps au pré. Pour être encore plus efficace, la réponse de Laure Bamière, économiste à l'INRA de Grignon.
Il faut impérativement généraliser les cultures intermédiaires, donc couvrir les sols le plus possible, et mettre en œuvre l'agroforesterie intraparcellaire, donc c'est planter des arbres sur les parcelles, et également augmenter la part des prairies temporaires dans les successions de grandes cultures.
Ces dernières mesures coûteront de 55 à 120 euros par hectare pour les agriculteurs, mais les services rendus au climat pourraient alors s'accompagner de mesures incitatives financées par la PAC, la politique agricole commune.
Et puisque l'on parle de chiffres, voici un musée dédié aux calculs et aux projets économiques. Citeco, inspiré de la Cité des Sciences, ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. C'est la Banque de France qui a investi 53 millions d'euros. Ce musée est censé attirer 13 000 visiteurs par an, dont un tiers de scolaires. Présentation de ce musée de l'économie avec Delphine Simon.
On peut toucher un lingot d'or, revivre le krach boursier de 1929 ou participer à un jeu de rôle pour simuler une négociation mondiale sur le climat. L'idée, c'est de faire découvrir et de comprendre les mécanismes économiques de façon très pratique. Par exemple, en faisant passer des objets banals au rayon X comme à l'aéroport. Philippe Ginest, directeur de la Cité de l'économie.
On s'aperçoit que même un pot de yaourt dont le contenu peut avoir été fabriqué dans la ferme qui se trouve à 200 mètres de chez vous, sa fabrication a nécessité des matériaux qui viennent du monde entier. Pour le plastique, pour l'opercule, pour la colle. Ça parle de l'économie aujourd'hui, telle que ça fonctionne, sans mettre d'opinion. Hein. Et justement, par cette dynamique du jeu, on comprend mieux.
Six thématiques, acteurs, marchés, régulation. À la sortie, on n'aura peut-être pas tout compris à l'économie, mais la faire aimer, c'est déjà ça, explique l'économiste Catherine Lubochinski, membre du conseil scientifique.
La France n'est pas bien classée en termes d'éducation économique et financière. Or, de nos jours, tout citoyen doit absolument comprendre l'essentiel, ne serait-ce que pour évaluer la crédibilité et les conséquences des promesses de certains candidats aux élections.
À Mexico, le musée qui a inspiré Citeco peut se targuer de séduire chaque année 200 000 visiteurs.
Les pluies et les orages localement violents seront présents ce vendredi sur l'est de la France et sur l'Occitanie. Quelques gouttes pourraient également tomber près de la Manche, mais les éclaircies sur le nord-ouest vont prendre tout de même le dessus. Ce matin, il fera 17 degrés à Rennes, à Bordeaux et à Lyon, 18 à Lille et Paris, 20 degrés ce matin à Besançon, 29 à Marseille et déjà dans la matinée 36 degrés en Corse où le pic de chaleur, ça y est atteint.